22h, vous êtes bien sur Radio Canu. Et moi non plus, je me rends pas. Et avant de s'entendre et de discuter astronomie, on va vous laisser avec notre générique d'entrée. Bonne écoute et à tout de suite.
C'était la dernière séquence. C'était la dernière séance.
Je suis ton père.
Est-ce qu'il y a encore d'autres trous du cul à bord de ce vaisseau? Ça, je le sentais, je suis entouré de trous du cul.
Feu à volonté, bande de trous du cul!
Et voilà, après ce formidable générique spécial émission avec Georges. Donc, effectivement, ce soir à la causerie, on est avec Georges. Bonsoir, Georges.
Bonsoir.
Il y a aussi Fab.
Salut.
Clara à la technique.
Bonsoir.
Il y a aussi Stan.
Bonsoir.
Et nous avons la visite d'un compagnon parisien, John.
Salut. Et puis une toute petite dédicace à Camille de Radio Libertaire. Et un pote qui vous écoute beaucoup, Étienne, qui vit à Cluse, en Haute-Savoie, et je suis sûr qu'il est là. Donc voilà, en tout cas, ça fait plaisir de venir participer à une émission sur Radio Canu.
Eh bien, plaisir de te recevoir.
Et Jean-Yves qui a fait l'ouverture.
C'est ça, en foirant un peu, mais comme d'habitude.
Personne n'a rien entendu, t'inquiète pas.
Mais clairement, on l'a présenté. Tu es un peu perturbé, John.
Non, il veut qu'elle parle plus. Parle.
Alors, avant d'entamer notre émission avec Georges, vous parler du ciel et bien d'autres choses, et ben on va vous donner quand même toutes les infos pour nous contacter. Déjà le mail peut-être.
Et ben lacausericanu@gmail.com, tout attaché en minuscules. lacausericanu@gmail.com.
C'est ça. Et on a aussi un espace blog où vous retrouvez toutes les émissions. Quelqu'un veut le rappeler ou...
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà. Blog avec un S.
Oui. C'est ça. Et on a aussi un espace sur le réseau social de Marc Z. Voilà, on s'en sert juste pour diffuser, pour propager la causerie.
On devrait dire Marky Mark pour la prochaine fois.
Marky Mark. En tout cas, voilà.
Et n'hésitez pas à la partager de votre côté aussi. Ça nous file un petit coup de main pour faire connaître ce qu'on fait.
C'est ça. Voilà. Et un jour, diriger le monde, évidemment, parce que ça fait partie de nos projets. C'est notre projet.
Ben, on va peut-être quand même laisser Georges démarrer.
Mais oui,
parce qu'ils font peur.
T'inquiète. Alors, juste quand même pour les auditrices et les auditeurs, pourquoi on a fait ce générique avec un mélange de films? C'est parce que ce soir, tu vas nous parler astronomie, certes, mais tu vas faire un lien entre ce que tu dis et certains films cinématographiques.
Tout à fait.
À bobine plus argentique. Et du coup, ben, on démarre d'abord sur un petit point sur les saisons, comme chaque trimestre.
Comme traditionnellement.
Ouais.
Depuis quelques jours, nous sommes en été, nous sommes en solstice d'été. Ça veut dire que, comme l'axe de rotation de la Terre est penché, nous sommes dans l'hémisphère nord, plus penché vers le soleil que les gens de l'hémisphère sud, les pauvres. C'est l'été qui a démarré chez nous et, ayant une pensée pour eux, c'est l'hiver qui a démarré chez eux. Du coup, comme on est penché davantage vers le soleil, on reçoit plus de chaleur. Et c'est l'été. C'est donc pas la distance Terre-Soleil qui est responsable des saisons, je le rappelle à chaque fois. D'ailleurs, on continue à s'éloigner du Soleil, encore pendant quelques jours, parce que c'est aux alentours du 2 ou 4 juillet que nous sommes au plus loin du Soleil, pour l'hémisphère nord. C'est donc en été qu'on est au plus loin du Soleil.
Et ben voilà. Et on pourra envoyer sur tes émissions précédentes pour les gens qui voudraient avoir plus d'infos là-dessus, notamment la première, qu'ils trouveront sur l'espace astronomie.
Oui, où il y avait un beau schéma.
Les onglets du blog, c'est beau.
Les onglets du blog, c'est beau.
Où il y a de beaux schémas.
Voilà. Eh ben, continuons.
Ben oui, alors ben déjà, enfin, oups, je m'entends très fort. Déjà, on peut peut-être expliquer un peu comment, enfin, comment tu vas aborder différents thèmes en fait, ouais.
Oui, je vais partir de particularités de l'espace, de particularités physiques et astrophysiques, et voir quels sont les films qui l'ont pas du tout respecté, et puis ceux qui, au contraire, l'ont respecté. Alors, je vais pas citer énormément de films. Je vais surtout parler des plus récents, à part quelques-uns plus anciens. Mais, ce qui va compter avant tout, c'est de rappeler les particularités de l'espace. C'est un environnement qui nous est pas familier, nous. Bon, on peut peut-être demander à Thomas Pesquet ce qu'il en est. Pour nous, ça n'est pas familier.
Thomas, si tu nous écoutes.
Alors, voilà.
Et on commence par
quoi?
Quelle première spécificité physique?
Le bruit dans l'espace. Mm-hmm. C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire dans beaucoup et beaucoup de films. Alors, on va rappeler ce qu'est le son, tout simplement. Le son, c'est une vibration de la matière. L'air est en vibration, et supposons qu'il traverse le mur, ce son. L'air transmet sa vibration au mur, et le mur transmet sa vibration à l'air à l'intérieur de la maison. Autrement dit, le son semble avoir traversé le mur. Il ne faut pas voir ça comme une circulation de particules. Quand l'onde passe dans l'air, il n'y a pas un déplacement d'air. La meilleure preuve, c'est que dans le mur, eh bien, on ne prend pas les particules de mur dans la figure quand le son a traversé. Il n'y a pas de déplacement de matière. Il faut bien voir cela comme ça.
Et ça, c'est une chance.
Il n'y a pas de déplacement de matière, mais c'est le mot matière qui est important là. Dans le vide, il n'y a pas de matière. Donc effectivement, dans le vide, il n'y a pas de son. Le son ne peut pas se transmettre, c'est impossible.
Et d'ailleurs, on va tout de suite imiter un cri dans l'espace. Voilà.
C'était le slogan d'Alien, film sorti en 1979. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. C'était cela que ça voulait dire en réalité. Les gens ont plutôt pensé à l'horreur. C'est vrai que quand on est sur Terre, on les entend pas crier dans leur vaisseau, alors qu'ils sont assassinés les uns après les autres. Non, ce que voulait dire l'auteur de l'affiche, c'était que dans l'espace, pas de son.
Et ça veut dire aussi que dans les films où on entend les réacteurs, il y a un petit peu du foutage de gueule, quoi.
Oui, absolument. Alors là, il y en a à l'appel. Alors, je précise une chose, ce sont des films que j'adore, les films que je vais critiquer pour cette particularité. Bien entendu, on pense tout de suite à Star Wars. Il y a eu 8 films, avec Rogue One. Et Star Wars, sans les bruits des vaisseaux, ça serait pas Star Wars. Donc c'est quelque chose qu'on accepte, effectivement. Mais normalement, les vaisseaux ne devraient émettre aucun bruit, puisqu'ils sont dans l'espace. On a Star Trek qui nous fait ça, qui nous fait des bruits de vaisseaux, et puis tout un tas d'autres films. Je disais que je voulais pas citer une ribambelle de films, juste les plus connus.
Et étonnamment, Alien, alors que l'affiche le dit, vous entend pas crier, on entend quand même les réacteurs dans Alien. Donc il y a une petite erreur entre l'affiche et le film, quoi.
Exactement, une petite erreur. Mais il y a heureusement des films qui l'ont parfaitement respecté. Alors ça fait étrange à l'écran, effectivement, plus de son, c'est très étrange. Et le plus important d'entre eux, c'est certainement 2001, l'Odyssée de l'espace, sorti en 1968, réalisé par Stanley Kubrick. Un véritable chef-d'œuvre, ce film, où dans l'espace, ou même à la surface de la Lune où il n'y a pas d'air, pas de son. Simplement pas de son. Un autre film dont on peut discuter le scénario, peut-être, mais qui en tout cas au niveau scientifique tient la route d'un bout à l'autre, c'est Gravity, film plus récent, sorti en 2013. Où ils sont dans l'espace et il n'y a pas de son. Donc quand ils sont à l'extérieur, leur casque transmet la radio, ils peuvent se parler, mais pas de son.
Non mais alors je me demandais, alors moi je suis pas du tout cinéphile tout ça, mais je me disais, donc ça veut dire que même vous en tant que spectateur, il y a une ambiance quand même particulière alors en fait. Parce que t'es plongé en fait dans un monde de silence en fait quoi.
C'est ça. Absolument. Okay. Quand ils sont dans le vaisseau, ben les vaisseaux sont pressurisés, il y a de l'air à l'intérieur, donc le son se propage parfaitement. Mais dans l'espace, non.
Okay. Bah l'une des scènes les plus angoissantes du cinéma dans l'espace, justement, elle est dans 2001. C'est la scène où il se retrouve seul au milieu de rien et où en fait il y a pas un bruit. Mais pas un bruit, c'est-à-dire que et c'est extrêmement angoissant en fait d'imaginer la personne qui n'entend que sa respiration finalement.
Oui oui, c'est pesant.
La seule chose qui
tout à fait, voilà. C'est pesant.
D'ailleurs, il y a quelques très rares salles sur Terre qui essaient de faire ça, de créer cet environnement absolument sans aucun son. Il paraît que c'est extrêmement perturbant. Mmh. Il n'y a vraiment plus rien et on s'entend, on entend tout et on entend des bruits qu'on s'est habitué en fait à ne plus entendre.
Et je crois qu'il y a eu des tests de privation de stimulation en fait chez des personnes. Donc quand vous leur enlevez toute perception sonore, aussi de toucher ou des choses comme ça, en fait c'est presque de la torture. En fait, qu'en fait on est fait pour être stimulé. Quoi.
Et donc faut imaginer qu'il y a des gens qui se baladent dans l'espace en entendant rien. Donc faut être un peu entraîné quand même. C'est ça le truc. Non mais c'est ça. C'est pour ça qu'ils s'entraînent énormément et très longtemps parce que oui quand tu sors dans l'espace il y a rien. Et Georges, j'avais une question pour toi par rapport à ça. C'est, tu parlais des films de science-fiction. Tu veux dire qu'on pourrait avoir des films de science-fiction où les lasers ne feraient pas de bruit? Mais imagines-tu ça? Donc, ça va pas être possible.
À Star Wars sans le bruit des lasers.
il existe. Alors, je vais poser une grande question, mais il n'existait pas une version faite par un psychopathe, mais qui a enlevé tous les sons qui n'existent pas. Ça a forcément existé, ça a forcément quelqu'un qui l'a fait.
J'en connais pas.
Il faut que je cherche ça. Si je trouve, je vous mets un lien sur le blog.
Les fanfictions, là, tout ça. Ouais. Ouais.
Alors, pour en terminer sur le son, j'aurais précisé que c'est vraiment une vibration de la matière, contrairement aux ondes radio. Les ondes radio sont des ondes électromagnétiques du même type que la lumière. C'est la longueur d'onde qui change. Et si les ondes électromagnétiques ne pouvaient pas voyager dans l'espace, ben on n'aurait pas de lumière, on n'aurait pas de soleil, forcément.
Et on n'aurait pas d'été.
Et on n'aurait pas d'été. Forcément, on voit le soleil, on voit les étoiles. La lumière voyage parfaitement dans le vide, dans l'espace.
Je sais pas si t'avais fini autour de...
Autour du son?
Autour du son, est-ce que tu voulais passer à un autre...
Tout à fait, oui.
À une autre spécificité.
On pourrait faire une émission sur le son, hein, mais...
Mais on pourrait, mais non.
Sur l'absence de son.
Et donc, on n'aura pas le temps. Le son, c'est essentiel quand même pour une radio. Hein.
Un peu quand même.
On peut le dire.
Et du coup, tu voulais parler aussi d'un autre phénomène.
Deuxième particularité quand on est dans l'espace, c'est l'absence de pesanteur. La pesanteur en un mot. En un mot. C'est important. Certains parlent d'impose-pesanteur. On peut parler d'apesanteur. Absence de pesanteur. Alors, ses conséquences, effectivement, c'est que dans les vaisseaux, on flotte. On a vu Thomas Pesquet s'amuser avec ça, royalement. Il s'est éclaté, en fait, hein, ce gars. Il s'est éclaté pendant ces 6 mois passés dans l'espace.
On sent que tu étais jaloux, en fait. Bon, je sais pas pourquoi, mais là, on le sent.
J'aurais un petit peu de mal, quand même, à être enfermé dans une capsule spatiale, pour le préciser. Mais il nous a tous fait rêver, oui. Oui, absolument.
Et alors, du coup, ça veut dire que c'est qu'un vaisseau qui vole dans un film, en théorie, les gens, ils flottent.
Non, en théorie.
Mais dans la pratique, non.
Eh bien, on l'a vu encore dans Star Wars. Alors, Star Wars et d'autres films inventent quelque chose d'absolument génial, qu'il faudrait vite inventer ça. Hein. Ce sont les ondes antigravitationnelles. Ça permet, en les inversant, de retrouver une gravité artificielle. Waouh, c'est
beau.
C'est fort. Donc dans l'atmosphère, les vaisseaux volent de cette façon-là, dans certains films, les ondes antigravitationnelles, et puis inversement, on peut reproduire en les inversant une gravité artificielle. Qu'est-ce qu'on attend pour inventer ça?
Peut-être que là, ce soit possible physiquement, mais je crois que c'est pas gagné, quoi.
Non. La gravité, je précise quand même, je reprécise ce que c'est, parce qu'on en a parlé ici quand on a parlé de Newton et de la gravitation. Hein. C'est une force relativement faible, mais qui s'étend à l'infini. Et cette force, elle diminue très très vite quand on s'éloigne. La formule nous dit qu'elle diminue en fonction du carré de la vitesse, de la distance. J'en étais assez de moi, du carré de la distance. Ça veut dire que quand on s'éloigne de 2 fois, la gravité diminue de 4 fois. Ça va extrêmement vite, c'est exponentiel. Et très rapidement, on n'a plus de gravité. La station spatiale était à 400 km de la Terre. Elle y est toujours, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, je crois. À 400 km de la Terre. Par rapport à l'échelle de la Terre, 12 740 km, le globe terrestre, c'est rien, 400 km. Imaginez, c'est même pas la moitié de la France en altitude. C'est rien, on est encore très 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 près de la Terre. La Terre remplit tout le champ de vision, très largement. Et bien, malgré tout, il y a quasiment plus de gravité, alors qu'on est encore très près. Voilà à quel point peut jouer la distance sur la gravitation. Alors, il y a d'autres films qui ont été un petit peu plus respectueux de cela. Pour recréer une gravité artificielle, simplement, ben, pourquoi ne pas faire tourner le vaisseau sur lui-même? Et c'est la force centrifuge qui recrée la gravité. Ça marche parfaitement, hein, c'est parfaitement plausible. Et là, encore une fois, le premier à avoir fait ça, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est Stanley Kubrick, en 1968. On a, à peu près au début du film, après l'introduction du film, une espèce de grande station spatiale en forme de roue qui tourne sur elle-même. Et on voit les gens qui ont de la gravité à l'intérieur du vaisseau, simplement grâce à la rotation. La force centrifuge, créée par la rotation. Un film plus récent, du même acabli, hein, moi je le place à peu près au même niveau, c'est Interstellar. Interstellar est une partie du vaisseau qui tourne sur lui-même, pour recréer une gravité artificielle. Et puis un autre film qui n'a pas eu un succès fantastique, qui s'appelait Elysium. Hein. C'est un film avec... Elysium, c'était Matt Damon.
Tout à fait.
Elysium, il y avait, comme dans 2001, une grande station spatiale en forme de grande roue. Simplement, cette roue, elle était, si j'ose dire, exposée au ciel ou à l'espace. Et c'est la rotation rapide de la roue qui maintenait l'atmosphère sur la roue. Et il vivait comme ça à la surface de cette roue, en toute gravité. J'ai trouvé ça pas mal, même si ça faudrait la faire tourner beaucoup plus vite pour retenir l'atmosphère. Mais bon, passons.
Bah, ils n'avaient pas envie de les centrifuger. Donc,
passons. Ça fait pas mal.
J'ai une question à deux balles. Donc tu disais, c'est faisable en fait. Si cette logique de rotation, en fait, elle fonctionnerait en fait.
Elle fonctionnerait.
Absolument. Et en fait, alors j'ai une question qui peut peut-être paraître, mais pourquoi alors on l'utilise pas genre dans la station internationale? C'est une histoire de moyens, de capacité.
Absolument, ça coûte extrêmement cher en énergie.
Oui, c'est ça.
Principalement
en
énergie. Okay. Ça coûte extrêmement cher.
Il y aura un diamètre quand même, un minimum à respecter ou
comment répondre?
Bah du oui.
Oui. Je pense que dans la station spatiale telle qu'elle est actuellement, c'est pas suffisamment grand pour recréer une gravité intéressante. Voilà. Okay. Il faudrait quelque chose de plus grand. De manière à être éloigné du centre de rotation et avoir une force centrifuge suffisante.
Eh ben, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, sinon je propose qu'on fasse une petite pause musicale, évidemment sur le thème du cinéma, et puis on se retrouve après.
Attendu, à tout à l'heure.
À tout de suite. Thank you.
Et vous êtes de retour dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. On vient d'écouter un extrait de la BO d'Interstellar. Georges, tu avais reconnu évidemment, donc c'est Day One et c'est bien sûr de Hans Zimmer. Je pense qu'à chaque fois que t'es là, Georges, on passe au moins une fois du Hans Zimmer. Je pense que c'est une règle absolue.
Tiens, ça, c'est ce que j'adore.
Et donc, du coup, on parlait de, on faisait un lien entre les réalités physiques de l'espace et ce qu'on voit dans les films. Et donc, tu nous as déjà parlé, pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez qu'à réécouter le début de l'émission la prochaine fois. Tu veux revenir dessus? Ah, il veut revenir dessus. Alors, tu nous as déjà parlé, du bruit dans l'espace et, qu'il n'y a pas, en fait, et de l'impesanteur à pesanteur. Et là, tu voulais rajouter quelque chose.
Je voulais rajouter quelque chose. Il y a quelques films qui ont pris parti simplement d'être en pesanteur, en absence de pesanteur, tout simplement. On le voit dans plusieurs scènes de 2001. Il y a Apollo 13 qui retrace l'histoire d'une mission qui a failli très mal se terminer en 1970. Le film date de 1995, mais je vous le conseille, il est très très bien.
Excellent ce film.
Il est excellent.
C'est là qu'est la fameuse phrase « Houston, on a un problème
». Tout à fait.
C'est vrai.
Et puis il y a aussi, je reviens encore une fois sur Gravity, où c'est en état d'apesanteur la plupart du temps, ce film.
D'ailleurs, c'était très très dur à recréer. Quand on voit le making-of, c'est impressionnant, quoi.
Bien sûr.
Ils sont harnachés, ils ont des harnais, machin. Et c'est vraiment étrange, quoi. Enfin, ils en ont chié, pour faire des films, je pense, vraiment.
Voilà, pour la pesanteur.
Et donc après, dans l'espace.
La troisième particularité, c'est le vide, dont on a déjà un peu parlé, mais c'est peut-être même le plus dangereux dans l'espace. C'est le vide, c'est l'absence d'atmosphère, c'est l'absence de pression. Quand on part de la surface de la Terre et qu'on s'élève, effectivement, la pression diminue, l'air se fait de plus en plus rare. Au sommet des montagnes, on commence à bien le sentir quand on fait de la marche en altitude. Si on continue à monter, les avions de ligne qui volent à 10 000 mètres d'altitude, ils sont pressurisés parce qu'à l'extérieur, ça n'est plus respirable, la pression n'est plus suffisante. Ce n'est pas encore le vide, attention. On est même encore très loin du vide à 10 000 mètres d'altitude. Mais la pression n'est plus du tout suffisante pour respirer.
Le vide, il est à combien ?
Il n'y a pas une limite franche, ça diminue ensuite de façon assez exponentielle, mais il faut être dans l'espace interplanétaire pour ne plus vraiment rencontrer grand-chose. Et même encore là, il y a encore des molécules, des molécules quelconques, tous les mètres ou tous les 10 mètres, il y a encore beaucoup de choses. Il n'y a vraiment que dans l'espace intergalactique, c'est même bien au-delà de l'espace interstellaire, qu'on a un vide quasiment parfait, mais il y a encore des choses qui circulent.
Alors juste, on va définir, interstellaire, ça veut dire ?
Entre les étoiles.
Voilà. Et intergalactique,
entre les galaxies. C'est encore plus vaste. voilà. Alors, comment se protéger du vide spatial ? En étant dans une capsule étanche, pressurisée, dans laquelle il y a la bonne pression pour respirer. Ça, c'est du vécu pour tous les astronautes, bien entendu. Quand on est par contre exposé au vide spatial, même avec une combinaison, il y a une autre particularité, c'est le grand contraste de température entre la zone exposée à la lumière et la zone dans l'ombre. Ça peut être plus 150 degrés en plein soleil et moins 150 dans l'ombre, même si les deux parties sont côte à côte. Ça pose aussi des problèmes, il faut des combinaisons qui tiennent compte de cela pour sortir dans l'espace. Si on est à la surface d'un astre qui n'a pas d'atmosphère, le problème est le même. La Lune, par exemple. La Lune n'a pas d'atmosphère. C'est un vide poussé à la surface de la Lune. Et il faut donc des combinaisons élaborées. Donc, je pense qu'on a mis ça au point quand même avant les années 70. Chapeau. Parce que finalement, on a fait quelques petites améliorations depuis, mais pas de révolution franche en matière de combinaison spatiale. Ils avaient déjà tout prévu, ou presque, à l'époque. Alors aujourd'hui, elles sont plus légères grâce aux matériaux. Mais elles fonctionnent quasiment de la même façon que dans les années 70.
Donc, en fait, juste comme ça, pour que je me rende compte, c'est pour moi, ça veut dire qu'un astronaute qui est en combinaison, qui passe de l'ombre à la lumière, il fait un bond de 300 degrés, quoi.
Exactement.
D'un delta de 300 degrés. De moins 150 à plus 150.
Faut des bons gants.
Ok, on va le dire comme ça, mais. Non, mais c'est impressionnant, quoi. Enfin, vraiment.
Et pensez à s'hydrater aussi.
Alors, la dépressurisation, qui est une catastrophe dans un avion, hein, on le sait, hein, c'est responsable de crash.
C'est pour ça que tu prends jamais l'avion, d'ailleurs.
Entre autres. Et ben, la dépressurisation, elle est souvent mise en scène dans des vaisseaux, hein. Des vaisseaux où il y a des avaries, par exemple. Ça peut être très violent, hein. Ça peut même être explosif, hein. On l'a vu dans certains films. Et là, encore une fois, on va parler de Star Wars pas en bien à ce niveau-là, parce que rappelez-vous les scènes de Star Wars où des vaisseaux décollent de hangars qui sont ouverts sur l'espace. Alors, on nous explique qu'il y a un champ de force qui retient l'atmosphère à l'intérieur du hangar. N'empêche que ces hangars, ils sont ouverts sur l'espace. Comme si on était en avion et que la soute s'ouvre à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. Là, on est ouvert sur l'espace. Non, quoi. Alors, c'est Star Wars, on accepte. Bah, oui. Encore une fois.
Sinon, il n'y a plus de film, quoi.
Quel champ de force pour retenir une telle pression? C'est absolument... C'est plus qu'improbable, c'est impossible. Mais bon. Et puis, un autre film qui a posé un petit problème, même si globalement il est très bon et beaucoup de choses sont respectées. Il a lieu à la surface de Mars, hein, c'est Sol sur Mars, qui est assez récent. Hein, celui-là, vous devez vous en rappeler. À un moment donné, notre héros, là, Sol sur Mars, comble les hublots qui ont éclaté, la porte qui a éclaté, avec une bâche plastique, rappelez-vous, et du scotch. Waouh!
C'est MacGyver!
Alors la pression est très faible sur Mars, même si c'est pas le vide, hein, absolu. Elle est très très faible. Donc de l'autre côté, dans la station, vous avez la pression atmosphérique. Mais ben non, c'est pas une bâche plastique scotchée qui va retenir la pression
atmosphérique. C'est une pub pour du gaffeur.
C'est ça en fait.
Là, c'est un problème, effectivement. Impossible. Quand on voit la pression exercée sur une surface par la pression atmosphérique, si vous prenez un fût métallique de 200 litres, que vous enlevez l'air à l'intérieur, eh ben, il se plie comme une crêpe. Pourtant, c'est du métal, c'est pas une bâche plastique.
Mais c'est ce qu'on voit, d'ailleurs. Il y a des images qu'on retrouve facilement sur Internet. Quand on vide une citerne et qu'on oublie d'ouvrir de l'autre côté, elle se comprime.
Ça, on ne voit pas les vents, oui. Elle est écrasée par la pression extérieure.
Ça se trouve très facilement, quoi. Et c'est hyper impressionnant de se dire que c'est juste la pression atmosphérique qui crée ce poids qui écrase la citerne.
Et là, encore une fois, un vaisseau spatial, il doit résister à ça.
On en a la preuve, il y en a qui sont au-dessus de nous là, en ce moment.
Tout à fait, oui.
Il y a des films où ils ont respecté le côté oups, j'ai pété mon vaisseau, je vais mourir bientôt.
Alors j'en ai pas en tête, mais il y en a eu, oui, effectivement. Il faudrait retrouver des titres, on en trouverait.
Moi j'en ai deux là qui me viennent,
vas-y.
Un mauvais et un bon. Alors le bon, tu l'as déjà cité, c'est 2001, parce qu'à un moment donné, il y a une scène de dépressurisation assez impressionnante.
On va en reparler, voilà. D'ailleurs, oui.
Et un mauvais, c'est Life, qui est sorti, il n'y a pas mauvais, mais parce que le scénario est à chier, mais par contre, ils ont vachement bien respecté le côté avec et sans air, en fait. La dépressurisation, et ça se passe dans l'ISS, donc c'est marrant. Voilà.
Tout à fait. Ça se passe dans un vaisseau existant. C'est la particularité de ce film de science-fiction, ce qui est assez rare. On va reparler de 2001 parce qu'il y a une scène qui a quand même été très controversée. Donc on peut en parler vaguement. Il est à l'extérieur, dans une capsule, il n'a plus de casque. L'ordinateur lui interdit l'entrée du vaisseau. Il a décidé que la mission était plus importante que la vie des êtres humains. Et il va quand même réussir à rentrer sans pressurisation, enfin il n'a pas de casque, en ouvrant un sas, en se précipitant à l'intérieur, alors que quand il a ouvert le sas s'est retrouvé sous vide. Il a rebondi plusieurs fois d'ailleurs à l'intérieur, et en fermant le plus rapidement possible le sas et en refaisant l'atmosphère. Donc est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Eh bien personne n'est capable de le dire ça. À mon avis... Personne va essayer avant longtemps.
Dis, tu veux sortir à moins 150 degrés?
Ouais, vas-y. Ça veut dire que sans casque, il est exposé quand même au vide spatial pendant quelques secondes. Est-ce qu'on y survit?
C'est peu probable.
Moi, je pense aussi. Mais bon.
Pour des questions de température
et de pression.
Et de pression,
oui. Oui, la grande légende, c'est est-ce qu'on explose, justement.
Et si on testait?
Il y a pas un challenger, là qui...
Alors, exposer plus longtemps, peut-être que ça finirait par arriver, oui. Parce que la pression interne va tirer les tissus dans tous les sens. Le sang aussi va se mettre à bouillir à la température à laquelle il est. Dans le vide sans pression, il se met à bouillir. Des trucs désagréables, quand même.
Un peu, ouais.
Mais bon, quelques secondes, je crois qu'il est exposé 5 à 10 secondes au vide spatial.
Mais c'est vrai que c'est...
Oui, tu as raison, c'est peu probable.
Mais elle est belle, la scène.
Elle est belle, elle est magnifique, oui.
Ou au moins, il devrait avoir des séquelles pour être cohérent.
Oui, au minimum.
Ouais.
Quelques brûlures, une oreille en moins. Fin...
Alors, la séquelle principale, c'est qu'il est très en colère contre l'ordinateur. Ensuite, si vous avez suivi le film, et qu'il va petit à petit le débrancher. Je ne veux pas révéler tous les aspects du film. Je le rappelle, sorti en 1968, et essayez de le regarder jusqu'au bout.
C'est le off, ça.
Il y a toujours du off dans la causerie, ça marche comme ça.
Voilà pour le vide. Donc vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de films qui le respectent.
On fait un petit pont musical ou...
Bah attends, est-ce que t'as peut-être...
Oui, je voulais encore une fois parler de Gravity au sujet de ce vide d'ailleurs.
Ah, pardon.
Mais oui, il y a, lorsqu'ils sont à l'extérieur, une pluie de débris causée par un vaisseau russe, je crois, qui a explosé. Ils se prennent ces débris de plein fouet. À un moment donné, il y a un débris qui traverse un astronaute en pleine tête. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Hein, cette scène, elle est gore, elle est extrêmement gore. On voit juste un énorme trou dans sa tête, dans son visage. Et d'ailleurs, on voit les étoiles de l'autre côté à travers ce trou, c'est très gore. Alors, est-ce possible cette scène? Eh bien, le froid de l'espace fige instantanément tous les fluides du corps. Elle est donc parfaitement possible. Mais c'est assez atroce.
C'est vrai. Mais tu n'as pas spoilé le film, comme on dit, parce que c'est tout début. Voilà.
Tout à fait. Gravity.
Musique ?
Musique. Thank you.
Vous êtes bien toujours sur Radio Caniche, la causerie 102.2, de 22h à 23h tous les dimanches soir. Fab est en train de parler pendant, ils ont rien à faire, des lumières qui s'allument.
Pardon, c'était voilà. Pas fait exprès.
Ça manque de discipline. Hein.
Ah, ça c'est vrai.
Ça va être toi, Challenger, pour voir. On vient de s'écouter quoi ?
On vient de s'écouter.
Attention anglais.
De s'écouter. On vient de s'écouter. Un medley de Star Wars et c'est interprété par Tina Gou.
Voilà.
C'est bien ça ?
C'est ça.
C'est bien ça.
C'est de John Williams.
C'est ça.
C'était étrange. Hein.
Ce mélange ?
Bah oui.
Un peu d'étrangeté, c'est pas mal aussi.
Et donc toujours en compagnie de Georges sur une merveilleuse et délicieuse chronique d'astronomie.
Oh, c'est beau. Et là, tu vas nous parler de quoi, Georges ? Des distances.
Voilà, des distances à parcourir. Et là, ça va être typiquement astronomique, dans tous les sens du terme.
Rappelons quand même que tu fais un lien entre ce que tu dis et le cinéma, que les gens comprennent pourquoi il y a du cinéma d'un coup. Voilà.
Oui, et pourquoi il y a beaucoup de musique de film dans cette émission. On avait déjà parlé, au cours d'une émission précédente, des distances. Déjà dans le système solaire, hein, vous vous souvenez ? On avait situé les différentes planètes, la Terre à 150 millions de kilomètres du Soleil, enfin, etc. Jupiter à 750 millions de kilomètres du Soleil, Saturne à 1,5 milliard de kilomètres du Soleil, etc., etc. Alors, ces planètes sont relativement éloignées les unes des autres, hein, ce qui explique qu'il faut des années à nos sondes pour les atteindre. Saturne, actuellement, il lui faut plus de 10 ans encore pour atteindre Saturne.
Avec une sonde.
Avec une sonde.
On n'a pas, on fait pas de voyage habité encore jusqu'à Saturne.
Non, non, non. Ça viendra probablement au cours de ce siècle avec Mars. On va certainement au cours du siècle, je l'espère, poser les pieds sur le sol martien. Alors qu'on y envoie des sondes depuis des décennies et des décennies. On y mettra enfin les pieds. Enfin, pas moi, ça c'est sûr. Quelques-uns y mettront les pieds.
Puis comme il n'y a rien à faire, on va à Mars et on repart.
On peut s'arrêter maintenant.
Voilà.
Bonne soirée, c'était sympa. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Oui. Bisous.
Pardon.
Mars, c'était aussi le mois de la dernière émission astronomique.
C'est vrai. Et d'ailleurs, vous pourrez retourner les voir, les écouter, je veux dire.
Oui, justement, parce que je voulais renvoyer justement sur ça, sur toutes les notions de distance. C'était une des premières causeries, je crois, qu'on a fait avec toi.
Oui, oui, oui. On avait fait un grand voyage.
Ouais, on avait fait un grand voyage.
C'est vraiment de l'univers.
Je vous invite, hein, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas écouté, de vous replonger là-dedans, ça explique aussi plein de trucs.
Alors, des heures et des heures pour aller sur Uranus, Neptune, pour la lumière. Pour la lumière qui voyage, je le rappelle, à 300 000 km par seconde. C'est cette fois le tour de la Terre à la seconde. Hein. Je rappelle que Thomas Pesquet, qui voyageait à 28 000 km/h, c'est déjà considérable pour nous dans notre esprit, hein, mettait une heure et demie pour faire le tour de la Terre. La lumière, si elle se déplaçait en cercle, ferait cette fois le tour de la Terre à la seconde. Voilà. Il lui faut quand même des heures pour atteindre les dernières planètes, hein, Uranus, Neptune. 6 heures pour Neptune, à peu près, oui. Et puis après, notre lumière, elle rencontre un vide considérable. Elle va encore rencontrer quelques trucs. À 20 ou 30 heures de lumière du Soleil, il existe une ceinture de Kuiper, hein, qui est constituée d'objets en tout genre, des comètes, des astéroïdes. Il y en a tout plein. Il y a encore des choses, même à cette distance du Soleil. Et puis plus loin encore, à quelques jours-lumière du Soleil, on rencontre ce qu'on appelle le nuage de Oort, composé également de ce genre d'objets. Mais après quelques jours de voyage en partant du Soleil, la lumière ne rencontre plus rien pendant 4 ans avant d'arriver à l'étoile la plus proche. 4 ans, 4 années de lumière, 4 années-lumière, c'est la distance qui sépare à peu près chacune des étoiles de notre galaxie. Les étoiles sont donc très isolées entre elles. Il n'est pas facile de voyager de l'une à l'autre, vous comprenez bien.
Pourtant, dans les films...
Sauf au cinéma.
Claquement de doigts, on y est, quoi.
Sauf au cinéma. Il faut savoir qu'actuellement, il nous faudrait des dizaines de milliers d'années pour rejoindre ces étoiles.
C'est un peu long, quand même.
Les films, c'est vachement chiant. T'enlèves le son, en plus, il y a 10 000 ans avant de voir la suite. Ça va, quoi.
Le film qui est la suite dans 10 000 ans.
Alors, les films, voyons voir. On va en parler de Star Wars, hein, bien entendu, qui a inventé l'hyperespace.
Ouais.
qui permet de voyager à une distance considérable. Il faut quelques jours pour aller d'une étoile à l'autre.
Tranquille.
Tranquille, c'est pas mal. Pas mal, pas mal.
Alors, rappelons que l'hyperespace n'existe que dans Star Wars.
Oui, absolument.
Alors, c'est un truc inventé par eux, quoi.
Absolument. Quand un vaisseau brusquement part dans l'hyperespace, il semble disparaître presque instantanément, à une vitesse considérable. C'est vrai que c'est très spectaculaire, hein, pour le coup. Mais non, quoi.
Mais non.
Alors, Star Trek a inventé autre chose, wow, qui ressemble un peu finalement, hein, la distorsion, la vitesse de distorsion, x fois la vitesse de la lumière. Alors, je me suis livré à un petit calcul, là. Eux, ils vont plus vite encore, ils mettent parfois quelques heures pour aller d'un système à l'autre. 10 heures d'un système à l'autre, c'est courant dans Star Trek, que ce soit les films ou la série, ou les séries, il y a eu plusieurs séries Star Trek. Donc 10 heures pour franchir 5 années-lumière, en gros, c'est la distance qui sépare en moyenne les étoiles dans une galaxie. Si on est au centre, c'est un peu moins, si on est à l'extérieur, c'est un peu plus, mais bon, en moyenne, 5 années-lumière par d'une étoile à l'autre, 10 heures pour aller de l'une à l'autre. Ça représente quand même 0,5 années de lumière à l'heure, ça. On est bien d'accord.
Oui.
Hein, c'est-à-dire 150 000 milliards de kilomètres à l'heure.
Et ce qui est bien, c'est que même quand ça s'arrête, le freinage, il se passe bien. Alors que là, normalement, il doit y avoir drama, quoi.
C'est vrai, mais c'est parce qu'ils connaissent les raccourcis.
Waouh, quoi. Alors, j'ai continué mon calcul. Mm-hmm. Un an, c'est 8760 heures. Ouais. 365 jours fois 24 heures, tout simple. Donc, 0,5 années-lumière à l'heure, c'est en gros 4380 fois la vitesse de la lumière. 4380 fois la vitesse de la lumière.
Nickel.
Voilà Star Trek. Ça serait pratique, hein.
C'est pour ça que les vaisseaux, ils ont cette forme bizarre. Je sais pas si c'est tendre comme ça.
Bon, je rappelle quand même qu'en physique, Einstein nous a démontré qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière.
Sauf
petite,
dans Star Trek.
Petite parenthèse.
Sauf dans Star Trek.
C'est un briseur de rêve, de toute façon, Einstein.
Mais là, 4380 fois la vitesse de la lumière, quand même. Quand même, quand même.
La distorsion neuve, donc. Hmm? Comme ils disent en Star Trek.
C'est ça. Waouh, waouh. Alors voilà. Quels sont les films qui ont plutôt respecté ça? Il y en a quand même quelques-uns. Il y en avait tout plein d'autres, hein, qui n'ont pas respecté, où on voyage comme ça d'un système à l'autre, presque instantanément. Ou...
Dans Barbarella aussi.
Oui. Les Gardiens de la Galaxie récemment
aussi, ouais.
sont des films d'action avant tout, hein. Mais je les adore, hein. C'est pas la question. Ben, je reparle d'Avatar. Parce que Avatar, si vous vous souvenez du début d'Avatar, le vaisseau qui les emmène sur Pandora met 5 ans. Et ils vont dans le système Alpha Centaur, qui est le système le plus proche du Soleil. Une des étoiles du système, hein, qui est une étoile naine, Proxima, est même l'étoile la plus proche du Soleil, à 4,26 années-lumière. Donc 4 années-lumière en 5 ans, c'est en gros 80% de la vitesse de la lumière. On est loin des 4000 et quelques fois la vitesse de la lumière. Donc ça, moi ça me va. Pourquoi pas? Dans le futur, inventer des vaisseaux qui sont capables d'aller à 80% de la vitesse de la lumière. Pourquoi pas?
Ouais, juste quand même rappeler ce que tu avais dit dans une autre émission. Dans le vide, rien en fait n'empêche d'accélérer autant qu'on veut.
Autant qu'on veut.
Vu qu'il n'y a pas de frottement, en fait, voilà.
C'est ça. Puis une fois qu'un mouvement est initié, si on n'intervient pas, il est quasi infini. Donc pour aller plus vite, il faut redonner un petit coup d'accélération, mais la vitesse est maintenue à l'infini. Donc si on est capable comme ça d'accélérer constamment, oui, on peut se retrouver, pourquoi pas, à 80% de la vitesse de la lumière. Pour l'instant, on ne sait pas produire l'énergie qui serait nécessaire.
C'est-à-dire qu'il faut des capacités de freinage phénoménales, si on revient
à ce que t'as dit tout à l'heure. Oui, oui.
Il faut même un super timing aussi, je me disais. Si tu te gourres un tout petit peu, tu t'écrases. Ça va vraiment vite, en fait.
Et voilà. Du coup, le film était très court. Ils se sont trompés d'eux.
Alors, un film plus récent, bon, que Fabien, tu n'as pas trop aimé, mais pour d'autres raisons, hein, pour d'autres raisons que les erreurs astronomiques. Hein, c'est Passengers, sorti l'année dernière. Hein, c'est vraiment un film récent. Alors, en gros, c'est 5000 passagers qui sont endormis dans un vaisseau qui va voyager très longtemps vers un autre système, hein, un système situé à 60 années-lumière. C'est pas tout près, mais enfin, bon, c'est dans notre région galactique, on va dire. Notre région. Bon, faut voyager un petit moment, mais... Alors, à 60 années-lumière, il voyage à 50% de la vitesse de la lumière. Et encore une fois, pourquoi pas? Ça me paraît très raisonnable. Ils sont plus raisonnables que dans Avatar. Là, on est à 50% de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire, je répète, 150 000 km par seconde, c'est ça, 50% de la vitesse de la lumière.
Ce que vous ne voyez pas en off, là, c'est Georges qui regarde très très fort Fab pour essayer de lui convaincre que c'est un bon film.
Oui, il essaye, mais il n'y arrivera pas.
Donc, leur voyage doit durer 120 ans, ils sont donc endormis. Bon, pour certains incidents, notamment ils traversent une pluie d'étoiles filantes, de météorites, un des passagers est réveillé dans son caisson. Il est réveillé après 30 ans de voyage, c'est-à-dire 90 ans trop tôt. Et le mec, eh ben merde, quoi, il va passer le reste de sa vie tout seul dans ce vaisseau. Alors, je ne vais pas raconter le film pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais voilà le démarrage
le
de ce
pitch.
Film.
Mais heureusement, il a de multiples personnalités.
Alors là, le vaisseau, une partie du vaisseau tourne sur lui-même, donc on est bien avec la gravité, c'est pas mal. Hein. Le vaisseau est assez luxueux, avec des jolies cabines, etc. C'est sympa comme tout, ça fait rêver. Moi, ça m'a fait rêver, ce vaisseau.
En termes de voyage, ouais, c'est sympa.
À un moment donné, il sort dans l'espace, accroché à un filin, c'est pareil, il s'amuse, quoi. Bah ouais, s'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il a un robot barman qui sert régulièrement à boire, enfin c'est sympa. Mais il y a quand même une erreur dans le film, c'est pour ça que je vais être amené à parler de distance encore. À un moment donné, le vaisseau croise l'étoile Arcturus. Arcturus qui est une étoile géante jaune-rouge, hein, bien connue des astronomes amateurs, elle est bien visible à l'œil nu. Sauf que Arcturus en réalité elle est à 37 années de lumière. Or, ils la croisent au bout de 30 ans de voyage. Comment ? Ils auraient été plus vite que la vitesse de la lumière ?
Et voilà.
37 années de lumière en 30 ans ?
Et vous vous demandez pourquoi je ne vais pas au ciné avec Georges, mais pour ça.
Donc là, il y a une petite erreur que les astronomes ont sans doute notée.
Enfin, normalement, toi en tout cas.
Normalement, effectivement, à la moitié de la vitesse de la lumière, ils auraient dû mettre 37 fois 2, c'est-à-dire 74 ans pour atteindre Arcturus.
Puis même en termes de longévité de vie des personnes, si vous dites qu'elles sont
dormies, congelées,
elles sont cryogénisées.
Ouais.
Ok, parce que
elles bougent plus.
Je ne l'ai pas précisé.
Les vies endormies, il n'a pas dit cryogénisées.
Oui, elles sont cryogénisées.
D'accord. Ça marche.
Oui, j'aurais dû être plus précis.
Oui. C'était juste pour être sûr.
Alors ça, c'est un grand fantasme des voyages dans l'espace aussi. Être endormi pendant des années, des dizaines d'années. Manière à pas trouver le temps trop long, quoi.
Bah ouais.
Voilà, voilà.
Petite pause musique.
Allons-y. Et on parlera ensuite d'Interstellar, encore une fois.
Allez, allez, c'est parti.
Et c'est toujours la causerie sur Radio Canu, 22h à 23h. Et ce soir, toujours en compagnie de Georges, et on cause espace et cinéma. Et là, on vient de s'écouter quoi?
C'était le titre, alors le thème principal du film Gravity, et c'est de Steven Prince.
Prince.
Je sais pas s'il y a un N ou pas. Bon, Price, je dirais. Voilà. Et Georges, tu voulais ajouter quelque chose sur les distances. Parce que tu voulais parler d'Interstellar et de son fameux trou dans l'espace.
Oui. Interstellar utilise le trou de verre. C'est quelque chose qui existe dans les équations de l'astrophysique. Ça avait été proposé par Einstein et un certain Nathan Rosen. En 1935 déjà, le trou de verre. Qu'est-ce qu'un trou de verre que utilise Interstellar? Eh bien, c'est une masse qui, généralement formée de trous noirs, de deux trous noirs, qui plie tellement l'espace que ça fait créer des raccourcis dans l'espace. Et dans Interstellar, on le voit très bien, ce trou de verre est découvert en orbite autour de Saturne. Qu'est-ce qu'il fait là? Le film ne le dit pas. Peu importe. Donc, à bord d'un vaisseau, ils rejoignent le trou de verre. Ils mettent 2 ans pour arriver sur Saturne. Saturne est loin. Actuellement, on met 10 ans. C'est tout à fait cohérent. Pourquoi pas 2 ans dans le futur? Pourquoi pas? Et ensuite, il traverse le trou de verre. Et là, le trou de verre mène carrément à une autre galaxie. C'est-à-dire, en quelques minutes, à des millions d'années-lumière de notre galaxie. Après avoir mis 2 ans pour atteindre le trou de verre, on franchit des millions d'années-lumière en quelques minutes. Mais il faut savoir que le trou de verre est un concept qui existe dans la physique actuelle, même si on n'en a pas découvert.
En fait, j'ai dit tout à l'heure que Einstein était un briseur de rêves, mais je pense qu'il a inventé les trous de verre. Enfin, il a théorisé ça juste pour que les films ils continuent à avoir un truc. moi, je mise tout là-dessus, personnellement.
Mais si c'est des trous noirs, tu traverses avec des intégrations et reconstitutions ou...
Alors non, c'est pas l'idée. Hein, ce qu'on sait également depuis Einstein, c'est qu'une masse, la présence d'une masse, courbe l'espace. Un trou noir, c'est une masse gravitationnelle énorme et peut, à certains endroits, refermer l'espace, donc sur lui-même, carrément. C'est fort, hein ?
Comme une feuille de papier pliée en deux.
Voilà. Les deux bords sont très loin les uns des autres. Si on plie la feuille, on peut se faire se toucher les bords. Et créer un raccourci.
Tu vois, t'étais pas loin quand tu sais qu'ils connaissent les raccourcis. Voilà.
Waouh, quoi. Voilà ce qu'utilise Interstellar.
Et ça, ce qui est intéressant, ce que tu sais, c'est que d'un point de vue scientifique, ça tient la route.
Ça tient la route.
C'est ça qui est fou, quoi.
Tout à fait. Tout à fait. On va aborder maintenant le dernier point qui concerne les astres eux-mêmes, la représentation des astres eux-mêmes dans les films. Galaxies, systèmes, étoiles, planètes, astéroïdes, enfin, etc., etc. Vous vous souvenez de cette scène culte dans Star Wars, le premier sorti au cinéma, l'épisode 4, hein, où Luke est sur la planète Tatooine et il regarde se coucher 2 soleils. Magnifique. Sont d'une musique absolument fascinante, 2 soleils. Donc rien à dire là contre, hein, il existe beaucoup de systèmes doubles dans notre galaxie et certainement partout ailleurs dans l'univers, voire des systèmes multiples d'étoiles. Avatar, lui, met en scène le système de Alpha Centauri, dont on a parlé il y a un moment, qui est le système le plus proche du système solaire, à 4 et des poussières années-lumière. Et autour de l'étoile principale, Alpha Centauri, tourne une planète géante gazeuse dans le film, hein, qu'on appelle Polyphème, si vous vous rappelez du film. Bon, moi, j'avoue que je m'en rappelais pas, je suis allé pêcher ça sur Internet. Voilà. Mais on se rappelle d'une des lunes de Polyphème, hein, qu'on voit tout le long du film, on est à sa surface, c'est Pandora. Ça, tout le monde se rappelle du nom de cette lune. Pandora qui est habitée donc par des êtres intelligents, hein, les Na'vi. Des grands personnages bleus avec une longue queue.
Ben non, Stan, non, on rit pas cette... non.
Alors si vous avez aimé, il faudra patienter encore un petit peu. Avatar 2 vient de démarrer, le tournage en tout cas. Et il faudra attendre 2020 pour l'avoir sur les écrans. Moi j'attends ça avec impatience. Voilà, belle histoire d'amour entre Ned et Harry.
Il est parti.
Et Jack Sully, je veux revoir ça. Ouais.
Et voilà, il est parti. Bon, alors. Et dans d'autres films, tu parlais d'astres bien représentés. Par exemple, la Lune, on la voit souvent régulièrement.
Oui, oui, dans 2001, l'Odyssée de l'espace, la représentation de la Lune est formidable. On s'y croirait. Alors que 1968, on n'avait pas encore mis les pieds à la surface de la Lune. Bon, on y avait posé des sondes hein, déjà à la surface, mais l'homme n'avait pas débarqué sur la Lune au moment de la sortie du film, au moment de la réalisation du film par Stanley Kubrick. C'est très très fort.
Ce qui a valu le fameux truc des complotistes qui disent c'est Stanley Kubrick qui a créé toutes les images qu'on voit, voilà. Alors que non, parce qu'il y a de la poussière sur les images de 69 qu'il n'y avait pas
oui,
chez Kubrick.
Tout à fait.
Parce qu'il savait pas
c'est un bon argument.
Bah oui, mais il savait pas qu'il y avait de la poussière, donc voilà.
Mais c'est incroyable, hein, cette négation de l'homme sur la Lune. On la rencontre régulièrement. Hein. Mmh. Et sur Internet, bah alors là, ça pullule. Hein. Moi, je dis simplement face à ça, au fait qu'on est bel et bien allé sur la Lune. Hein. C'est que dans quelques observatoires répartis sur la planète, et dans le sud de la France notamment, on tire au laser sur la Lune. Alors c'est pas pour la détruire. On tire sur des petits réflecteurs posés sur la Lune et on mesure avec une très grande précision le temps qu'on remet le laser pour revenir. Ça nous permet d'avoir instantanément la distance de la Lune. Et c'est important d'avoir quasi en permanence la distance de la Lune parce que ça permet de connaître un peu mieux le système gravitationnel Terre-Lune, qui est très complexe en réalité. On le voit avec les marées, on le voit... Voilà. Donc pour pouvoir utiliser les réflecteurs qui sont posés sur la Lune, il faut y être allé, il faut les avoir posés. Voilà, c'est tout simple comme argument.
Bah oui, bien.
On est bel et bien allé, croyez-moi.
Et des images de la Terre.
Ah, on a, là, dans Gravity, c'est magnifique. On a des images de la Terre qui sont magnifiques. Alors, Thomas Pesquet nous a gratifié de vraies images, hein, de très belles images, mais elles sont bien reproduites au cinéma dans Gravity. En réalité, la plupart des planètes qu'on voit dans les films récents, hein, il y a 50 ans, c'était peut-être pas le cas, ben, sont bien représentées. On a des superbes planètes dans l'espace, sur fond d'étoiles. C'est très très bien fait, tout ça, au cinéma. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Est-ce que tu en as terminé, Jean ?
On a encore quelques minutes, parce que je voudrais une dernière fois parler d'Interstellar ce soir.
Vas-y.
Qui met en scène trois planètes, enfin quatre avec la Terre, bien entendu, qui est bien malade hein, dans ce film. C'est la raison pour laquelle on cherche à la quitter. La première planète... Après avoir traversé le trou de verre qu'il visite, c'est la planète de Miller, qui est à proximité d'un trou noir. Et cette planète est recouverte d'eau, avec des vagues immenses. Et c'est la gravité exceptionnelle du trou noir qui provoque ces vagues, comme de gigantesques marées. Hein. On sait très bien que c'est la Lune qui est responsable des marées sur les mers et les océans terrestres. Première chose, pourquoi pas? C'était assez original en plus, hein. La deuxième planète visitée par les héros, c'est une planète complètement glacée, absolument inhospitalière. C'était pas le bon choix. Et la troisième planète, qui est un peu aride, la planète d'Edmond, hein, elle est un peu aride, mais elle a de la végétation et elle est habitable. Elle est visitée par Amélia, hein, une des héroïnes du film. Celle-ci est habitable. Ça me fait carrément rêver, moi. Des planètes habitables. Autour d'autres étoiles.
Ce qu'on appelle des exoplanètes.
Mmh, tout à fait. Donc un dernier point, toujours avec Interstellar, c'est le trou noir tel qu'il est représenté, parce qu'on a beaucoup écrit et beaucoup lu là-dessus. Hein, il paraît étrange hein, dans le film, avec une circulation de matière un peu partout autour, alors qu'effectivement, en réalité, si on a affaire à un trou noir, il y a bien de la matière qui tombe vers lui, mais plutôt en forme d'anneau, en forme de disque. Mais c'est la distorsion de la lumière qui provoque ça. La gravité du trou noir est telle qu'il attire même la lumière. Hein. C'est d'ailleurs par définition pour ça qu'il est noir. Quand la lumière tombe dans le trou noir, elle n'en ressort pas. Et il s'est aidé, Christopher Nolan, le réalisateur, s'est aidé d'un astrophysicien pour représenter ce trou noir. Ça serait tel qu'on pourrait le voir réellement d'après les astrophysiciens. Ça, c'est très fort. Voilà. Voilà, j'en ai terminé avec l'astronomie au cinéma, l'astrophysique au cinéma. J'espère vous avoir fait un peu rêver et puis vous inciter à voir ou revoir tous les films que j'ai cités pendant l'émission.
Oh, c'était bien.
C'est très bien.
Non, mais merci, vraiment. C'était un beau voyage. Eh bien, avant de nous quitter, on a des petites brévouilles.
Oui, des petites brévouilles. Tu me fais pas un super générique comme tu
veux. C'est les brèves.
Merci. Alors, la première info, c'est un appel à rassemblement et à la grève demain à la station d'épuration sort à Saint-Fond, en fait, dès 7h du mat, donc dans 8h. Courage à celles et ceux qui y seront, parce que c'est sûr qu'il y en aura. C'est au 37 avenue des Frères Perret, donc c'est, comme je vous ai dit, à Saint-Fond. En fait, c'est des salariés l'Union Locale CGT qui appellent à faire grève en soutien, en fait, pour s'opposer à toute sanction contre un de leurs collègues et membres. Et syndiqués, en tout cas, à la CGT. Voilà pour ça. L'autre rendez-vous, c'est comme tous les lundis, de 18h30 à 20h. Ça se passe à la Lutine. C'est la permanence de soutien aux sans-papiers. Permanence juridique, pardon. Et l'autre info, c'est la dernière que j'aurai à vous donner ce soir, c'est vendredi 30 juin à 19h. Ça se passera du côté du bar fédératif Les Clameurs. C'est le groupe Graine d'Anard de la Fédération anarchiste qui organise une soirée projection, débat et rencontre avec un anarchiste vénézuélien, Esteban, qui va venir nous parler de la situation du Venezuela. Et on avait partagé d'ailleurs ici un mot des anarchistes vénézuéliens qui appelaient à sortir du binarisme soit soutien Maduro, soit fasciste. Non, on a bien d'autres regards à poser sur ces situations-là quand on est anarchiste. Donc voilà, donc rendez-vous à 19h au bar Les Clameurs, c'est au 23 rue d'Aguesseau dans le 7e arrondissement.
C'est ça.
Et c'est tout. Et l'autre rendez-vous, c'est la causerie, comme d'habitude, tous les dimanches, 22h, 23h, un moment magnifique, spécial.
Enfin, tout ça, l'emballement est total. Ça y est,
il est parti.
Bon, je vous ai vendu du rêve.
Ah, oui,
est-ce que je peux juste rappeler un truc?
Mais oui.
C'est venir nous voir au club, ça serait bien, le mercredi soir à 20h30 à la maison des associations de Chaponnet, où quand il fait beau, on a toujours un télescope dehors pour montrer les planètes. Voilà, vous pouvez.
C'est le club d'astronomie, hein, pas le club de la causerie.
Oui.
Je précise quand même.
Mais par contre, si vous arrivez et que vous dites à Georges, je viens parce que je t'ai entendu dans la causerie, vous payez un verre. Alors, ça vaut le coup.
Tout à fait, on a un frigo bien plein.
Donc voilà. Donc si tu y entends, tu vas au club de Chaponnet.
N'hésitez pas.
Le mercredi à partir de
20h30.
Voilà.
Et peut-être un jour, quelques membres de l'association autour de la table. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi de croiser les différentes approches de l'astronomie, etc.
Je l'ai proposé. Je pense que ça va pouvoir
Ce serait vraiment cool, je trouve. En plus, je sais qu'il y a quelques femmes aussi. Je trouve que ce serait aussi, sur ce point-là, très intéressant. Enfin bon.
D'avoir un point de vue.
Oui, c'est intéressant.
Et avant, on mangera indien, ça va être vachement bien. Voilà. J'en ai envie de venir. Du coup, on va se quitter sur un titre quand même. Oui. Qu'il faut donner. Alors, pour finir, on s'est dit, tiens, si on angoissait un peu les auditrices et les auditeurs avant qu'ils aillent se coucher. Donc, on va se quitter avec le titre, enfin,
le discours d'Emmanuel Macron. Non, c'est pas ça, pardon.
C'est angoissant, c'est très angoissant.
N'importe quoi. On va se quitter avec la musique du titre, enfin, le main title, comme ils disent en anglais, de Alien, qui est de Jerry Goldsmith. Voilà.
Eh ben merci encore Georges.
Merci Georges.
Merci
à vous. Et bonne semaine à tous.
Merci à John aussi. Au plaisir.
C'était bien.
Oui, tout à fait. C'était chouette.
Tu reviendras.
Un beau voyage.
Et ben voilà.
Cool.
Eh bien bonsoir.
Bonsoir et des bisous à toutes et à tous.
Amusez-vous bien.
Merci Clara pour la technique.
De rien, bonsoir.
Je crois qu'on peut y aller.
Ciao.